Grosso et
Roger Fringant qui n'entend pas de retour, ça lui fait très drôle.
Sans oublier,
c'est exactement comme d'habitude, bah, Tom.
Bah oui, mon bon Tom, que j'ai plein de choses à lui demander. C'est pour ça que je suis très gentil.
Mais non, attends, j'en ai
depuis
marre
qu'il y a
de
la nouvelle
histoires.
Configuration du studio, je l'ai en permanence,
là, c'est vrai.
En face de moi, et qu'on va sortir son pâté Enaf, juste
ça va pas tarder.
Et moi, vous avez vu,
ça va m'énerver. Ça,
il est sur mon angle mort. C'est pour ça que je me suis mis comme ça. Je ne vois pas, mais je l'entends. C'est
et
ça qui est terrible.
Et c'est vrai, la nouvelle configuration, on se dit, c'est ma place.
Voilà. Voilà. Mais j'ai un peu comme les clébards dos au mur. C'est un truc d'atavique. Vous savez, ça nous vient depuis Cro-Magnon.
Et qu'est-ce qu'on mange, Tom, ce soir
Alors, c'est boîte de thon avec du pain
et
des carottes râpées.
Carottes râpées, tout ça au-dessus de là.
Platine.
Console.
Ah, console.
Eh bien voilà, Patrick, si tu nous écoutes, tu sauras au moins à qui t'adresser.
Bref, vous écoutez les Green News, si on est mercredi, entre 20h normalement, c'est ce que c'est marqué sur le papier, mais bon, vous connaissez les petits jeunes qui s'emportent et qui nous grignotent quelques minutes jusqu'à 22h, le dimanche.
Mais c'est normal, mon bon Jean-Loup, c'est eux la sève, c'est eux la jeunesse, c'est eux l'avenir, et ça nous permet de nous poser, d'arriver, de s'installer, de dire bonjour à l'invité, de retrouver l'invité d'ailleurs, parce que c'est rigolo, on en parlera un autre jour, mais nos invités, on les retrouve un peu partout, ils se dispersent, parfois ils rentrent dans la maison de machin, il faut pas rentrer dans la maison machin.
Mais vous êtes tellement vague, le parking vélo,
il y en a 17 en tout. Je vais essayer de redéfinir à quoi ça ressemble pour les prochains invités. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement on a pris un petit peu de retard parce que le temps qu'on trouve notre invité et
qu'on va s'écouter un petit disque.
On va s'écouter.
Il faut que vous repreniez.
Alors, est-ce qu'on embraye tout de suite sur mon disque? C'est bien.
De toute façon, vous avez rien calé d'autre, donc.
Eh ben, pour moi, c'est très bien. C'est une petite dédicace à François Fillon. Je suis sûr qu'il nous écoute pas.
Vous avez dit que votre psy a dit ne regardez aucune nouvelle, ni fait d'hiver, ni des nouvelles sur Fillon.
C'est vrai qu'il faut que je tienne encore 83 jours. Et donc, du coup, un petit morceau que je dédicace à François Fillon, qui, en plus d'avoir une femme qui cumule des emplois, reviendra là-dessus tout à l'heure, est un bon pilote automobile. Allez, un petit morceau des VRP. Je suis le roi de la route. Ça va passer, ça va passer, ça va passer.
C'est parti.
Celui-là, je vais me le faire. Depuis le temps que je roule derrière. Avec sa vieille Fiat pourrie. Je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais la voir, je m'en vais lui faire voir. Je suis à côté, je vais le doubler. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouh! Et lui avec sa tonus. Je vais lui chatouiller le pare-choc. Il ferait mieux de conduire un bus. Ça va lui faire comme un choc. Portière à portière, de quoi il a l'air. Un petit bras d'honneur, ça c'est mon bonheur. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf, c'est moi le roi de la route.
Je mets la
je peux faire Paris-Beyrouth
en ligne de billeurs.
C'est moi le roi de la route.
Mais il est pas pompeux.
Je me faufile sans un doute.
Sans aucune frayeur.
Après un petit gueuleton, ça fait du bien de rouler. Bonjour la gueule du ballon. Si les flics me font souffler, c'est un Beaujolais, c'est comme qu'il est. Mal digéré, j'ai envie de gerber.
Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer.
C'est moi le roi de la route. Je peux faire Paris-Beyrouth. C'est moi le roi de la route.
Mais s'il est à pompe,
je me faufile sans un doute. Oh, les gosses, arrêtez de brailler.
Mais où tu vas, papa?
Mais si je sais très bien où je vais.
Mais non, viens contre ça.
Je me retourne pour claquer un môme.
Je l'ai ça y est, je vais manger une pilule. J'ai du mal à refaire surface. Tiens, je mets Simone à ma place. Pour une fois, les gosses se tiennent. Tranquille, j'entends la sirène. C'est pratique le gyrophare pour doubler tous ces connards. Vas-y, appuie-tu, ça y est, tu l'as eu. Pour un maximum, prouve que t'es un homme. Je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer. Je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer, je vais y passer.
Non mais vous faites une fixette, vous
sur
m'inquiétez.
La fiane, ouais. Écoutez, moi j'ai trouvé, on en discutait à table avec le fiston et ma chérie, et puis je sais pas, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un a dit ça va passer, ça va passer, ça va passer, et pouf, je me suis dit ça c'est les VRP, le roi de la route, un hommage à François Fillon qui est, il paraît, un as du volant en voiture vintage. On lui prête même des Ferrari d'ailleurs de temps en temps. Et c'est un petit peu son péché mignon, mais qui n'en a pas des péchés mignons. Bref, une émission bourrée
comme tous les mercredis. Avec
ce soir, tout d'abord, des représentantes du roller derby de Rennes.
Oui, normalement, qu'on accueille régulièrement. Soit elles sont en fauteuil, soit elles sont en béquille.
Non, pas là.
Non,
pas là.
Vous croyez là.
J'espère qu'elles n'ont pas eu un entraînement sanglant hier, par exemple, qui expliquerait leur retard ou leur absence. Mais normalement, elles doivent venir nous rejoindre. Puis, nous recevrons Pierre-Yves Javaudin.
Pierre,
pourquoi? J'ai un ami qui s'appelle Pierre-Yves, et voilà, vous y avez eu le droit, je crois que vous allez y avoir droit pendant toute la soirée, je m'excuse. Non,
j'y veillerai, Pierre.
J'y veillera. Voilà. Pierre Javaudin, qu'on a découvert au détour d'une chronique dans un magazine qui nous indiquait la sortie d'un ouvrage, à propos d'un ouvrage expliquant comment construire ou comment essayer d'avoir une ruche dans son jardin, mais pas n'importe quelle ruche, une ruche horizontale on va dire, pour résumer l'affaire, on reviendra là-dessus, mais en respectant des tas de choses que beaucoup de gens oublient.
Voilà, comment devenir mielliste, amateur, tout voilà. Simplement, quoi, là,
tout à fait, mielliste ou happy man.
Voilà.
Comment vous dites, vous?
Happy man.
Happy man, ouais, il y a un petit côté anglais. Écoutez, je vois qu'il y a des jeunes filles qui arrivent, donc c'est super, on va pouvoir
se passer un petit disque, le temps qu'on accueille tout le monde.
On a largement le temps de s'écouter un petit disque, vous avez raison.
Chez les Grignoux, on accueille bien les gens. C'est
notre
marque de fabrique, ça.
Un petit disque de la programmation à Jean-Loup, ça doit durer au moins 5
minutes. Non, à Tom.
Et pourquoi attendez, il y a un problème là. Attendez, je vais vérifier sur mon application.
Vérifier et aller pleurer.
Vous étiez premier la dernière fois avec Parov Stellar.
Et les premiers seront les derniers.
Et voilà. Ça fait 25 ans que c'est comme ça.
Bon, écoutez,
et on va quand même pas changer les règles. Bien, Tom. Et c'est donc vous, et vous nous mettez.
Et Electric Lane avec On Parade.
C'est bien. Une minute 20, c'est bien.
2 minutes 36.
Ah bah, avec ça, ouais.
Et c'est parti. Vous avez le temps d'accueillir.
c'est maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un Grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça vous couperait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Ma rubrique à Roger.
Bah oui, dit l'énervé là.
Roger dit le
vous
mauvais.
Vous êtes interdit de faire l'hiver. Vous êtes interdit de lire les éditos de West France. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez
alors
des rubriques faire l'hiver.
C'est pas de ma faute. C'est pas tout à fait de la faute. C'est
même moi,
je
lis jamais.
C'est mon frère. Je m'étais rendu chez lui dans les Côtes d'Armor et à l'apéro, voilà, qui me dit As-tu lu l'édito de François-Régis Hutin ce samedi dernier? François-Régis Hutin, c'est un peu le patron un peu de la boutique, on va dire quand même. Hein. C'est la famille Hutin qui possède la boutique. Donc du coup, il a le droit de dire des trucs. Il en dit depuis des siècles. Sauf que là, est-ce le grand âge, je ne sais pas, Alzheimer ou je ne sais pas quoi, l'abus de substances psychédéliques interdites. Sauf que dans cet édito fameux, eh bien, François-Régis Hutin donne une leçon aux journalistes du Canard enchaîné. Ça commence par dire sans nuire. Dire sans nuire, ça veut dire peut-être ne pas dire en fait finalement, parce qu'il dit voilà un principe qui devrait guider la plume du journaliste. Cela exige compétence pour dire correctement ce qui doit être dit et le sens des responsabilités pour éviter de blesser inutilement qui que ce soit. Ça commence bien. Il poursuit en disant,
là vous faites de
dire
la
pour nuire. On éprouve alors le sentiment que l'on avance telle ou telle chose, non pas pour informer que pour abattre quelqu'un. Et il continue en disant ses accusations sur le fait parfois de l'imagination. Parfois, elles résultent de conclusions hâtives qui s'ajoutent les unes aux autres et créent l'incertitude chez le plus grand nombre. Bah ouais, c'est vrai que le Canard enchaîné, ça fait quand même 3 semaines qu'il amène preuve après preuve.
J'ai une petite question à vous poser.
Ouais, mais attendez, je finis.
Bah oui, de lire l'article de...
Ah bah ouais.
Vous faites pas chier, vous réunissez.
Non, je ne lis que ce qui est souligné, parce que sinon, je serais déjà mort. Et donc, du coup, effectivement, le sens des responsabilités et cette leçon de journalisme donnée aux journalistes du Canard enchaîné laisse un peu pantois. Et il continue en disant, on constate que le journaliste peut apporter des dénégations... Ah non, l'homme politique, pardon. On constate que celui-ci peut apporter ses dénégations sans être cru. Il peut fournir quelques preuves, elles sont systématiquement mises en doute. Mais attends, François...
Mais il écrit très bien,
vous avez entendu une preuve, vous avez entendu, ne serait-ce que
plutôt.
Pénélope, elle est quand même avocate. C'est pas la gourdasse qu'on imagine, toujours avec son tricot, en train de tisser des toits. Si j'ose dire, comment dirais-je, en attendant que son François revienne.
Mais justement,
je termine parce qu'il me reste encore 3-4 lignes. Mais tout, alors il continue, il poursuit. Je vous dis pas tout, mais le plus intéressant, il nous dit ces processus sont funestes pour la démocratie. Ben voyons, on n'est pas loin du tous pourri. Et il conclut en disant « Le vide appelle son complément et sortent alors de l'ombre les plus extrémistes qui font peser leur férule. » Alors leur férule, il n'y a plus beaucoup de lecteurs qui savent ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. « On le regrettera, mais il sera trop tard. Ce mal emportera la démocratie pour le plus grand malheur de tous. Ouais. » En clair, si on écoute bien François-Régis, on ne dit rien. Cette grande leçon de journalisme est un peu à l'image de la lettre. Il faut quand même savoir que West France est désormais un petit peu à la pointe du combat en faveur de Fillon, puisque c'est le journal régional qui a publié ce jour. Alors, ils n'ont pas osé la mettre en politique, c'est marrant. Ils l'ont mis dans chronique, vous savez, une espèce de chronique après les obsèques, entre l'agriculture et puis la page télé. Pouf, il y a une espèce de chronique économique et politique. Et là, pouf, il y a la lettre de Fillon. Et c'est Fillon apporte encore des éclaircissements. En fait, que dalle. Et si on continue encore sur cette affaire Fillon, on découvre que quoi? Non seulement, elle avait un emploi fictif, elle n'en avait pas seulement un, mais elle en avait deux.
L'aurait.
Ouais,
attention. Bon, c'est comme si moi, je disais que le mec
présomption
qui a mis une claque à Valls, il venait de Diwan. C'est pareil, la formule du conditionnel. Bon,
elle aurait donc accompli le travail d'attaché parlementaire, et en plein temps, et en plus, un autre travail à plein temps, ce qui paradoxalement, on l'éloigne là même du travail fictif, parce que elle tombe dans un autre travers de la loi, à savoir qu'on ne peut pas bosser plus de 51 heures par semaine, sinon il faut faire des déclarations ad hoc et compagnie. Donc, est-ce que François Fillon exploite sa femme? On ne l'entend pas, elle pleurote pour un peu, c'est un tordeur de gonzesse.
Ouais, 51 heures par semaine, je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui les atteignent sans problème.
Deux emplois, ça vous pose pas de problème, vous travaillez deux emplois.
Alors, j'ai une petite question aussi, parce que je sais que vous êtes un spécialiste du canard enchaîné. Ça a été dégoté par le canard enchaîné. Ses sources sont fiables? Est-ce que dans son histoire, le canard enchaîné a déjà été condamné pour diffamation?
Alors, c'est marrant que vous me dites ça, parce que c'est justement
si c'est vraiment une source sûre
depuis 3 semaines. Mais si les allégations du canard enchaîné étaient si fausses, pourquoi est-ce que François Fillon ne s'est pas déjà pourvu en justice? Il pouvait. Ça fait 3 semaines qu'il peut le faire.
En diffamation, là.
Qu'est-ce qu'il l'a fait?
Encore. Il devrait. Il est mal conseillé.
Il attend quoi qu'on publie des photos de sa gonzesse à poil dans le jardin? Laissez tomber. Il est cuit de chez cuit. Et j'ai l'impression, moi, qu'il a pris en otage un peu la droite, qui ne sait plus. C'est un peu la droite aujourd'hui. C'est un peu comme un poulet sans tête. Vous savez, on coupe la tête d'un poulet et puis il continue à courir. Et j'ai l'impression que
la gauche aussi, hein, quelque part.
Oui, mais alors que justement, on croyait que c'est peut-être la gauche qui allait imploser avec justement entre les socialistes, amonistes et puis la vague macroniste. Eh bien, point un peu. Ben non, Macron va peut-être créer son propre parti, ni plus ni moins, En Marche. D'ailleurs, je crois que ça a l'air d'être bien parti pour lui. Même s'il a pas de programme, c'est pas grave. Il est un petit peu comme le joueur de flûte d'Amelin, vous savez. Tout le monde le suit parce qu'il a un joli flutio. Il n'a pas encore donné la moindre once de ses programmes, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est apparemment qu'il plaise.
Oui, mais vous inquiétez pas, les Français vont oublier.
Tom, vous au moins vous aviez fait un mea culpa tout à l'heure au briefing. Vous m'avez dit quoi?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai quoi?
J'étais d'accord avec Jean-Loup que je pensais que ça allait faire flop.
Attendez, il y a une semaine.
Il y a 15 jours.
Non, il y a 15 jours.
Il
avait dit quoi?
Vous aviez dit comme Jean-Loup, j'avais dit ça va durer 2-3 jours et après on parlera d'autre chose.
Et je reviens toujours sur ma théorie, comme les gens ont complètement oublié que Fillon était quand même Premier ministre pendant 5 ans. Hein, je crois que c'est un des plus une longue date de Premier ministre sous la 5e. Et on peut pas dire que c'était un succès. On verra bien. Et j'espère que vous avez raison, hein, Roger. Hein,
je suis même pas sûr.
Et le plan B, justement, serait pas le plan Bayrou qui viendrait foutre sa merde
tous les 5 ans. Vous nous ressortez Bayrou. Vous faites rire nos invités. Vous faites rire nos jeunes invités. Hein, Bayrou.
C'était Géry.
Question. Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro rouge? Les filles, ça vous dit quelque chose, Bayrou? Je sais pas. Aloha.
J'ai un très grand souvenir de ses oreilles, mais ça.
C'est déjà pas mal. Au moins, c'est sa marque.
Et vous, Angrie, ça vous dit quelque chose?
Vaguement des écharpes oranges.
Jean-Loup, vous avez la réponse à votre question, à la question de la, je sais pas, une question qu'on pose un peu à la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez de Bayrou? C'est pas pour vous faire du mal.
On verra bien. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'être vieux de quelques mois pour savoir.
Non, pourquoi il faut profiter de chaque instant?
Non, mais à quel âge je vais partir en retraite, hein, tout simplement.
C'est l'autre penchant, hein, l'autre pendant de la campagne Fillon, c'était quand même celui qui devait nous faire bouffer le plus d'huile de ricin. Genre, retraite à 70 ans. Les fonctionnaires, tiens, ça va payer, qui vont bosser 39 heures, payer 35, tout un tas de saloperies, la TVA, 2 points dans la gueule. Et on sait que ça taxe particulièrement les classes les plus riches de la population, hein, quand la TVA prend 2 points. Mais donc, du coup, comment voulez-vous qu'alors qu'il a quand même l'impression d'avoir mis les mains dans la confiture, ce que ne contestent même pas certains de ses soutiens, et ses soutiens, quand on voit ses soutiens, c'est des pauvres petits vieux qui ont du mal à agiter le drapeau en disant, vas-y, Fillon! Et la primaire, c'est pas forcément une élection, générale.
Mais c'est
le plus triste, et je vous laisse la parole, mais le plus triste dans toutes ces histoires, c'est que la grande gagnante, c'est pas vraiment la gauche, ça va être Marine. Et je suis persuadé, quant à moi, que s'il y a bien une chose qu'on sous-estime, c'est le vote Marine. Et quand on regarde, vous savez, les réactions, toujours intéressant de regarder les réactions sur Internet par rapport à tel article, etc. Et le nombre de gens qui disent, ouais, alors que j'allais voter pour ce con-là, la prochaine fois, c'est Marine. Et vous notez, et c'est la une espèce de réaction globale des élus Fillon.
Le bonjour. Front National, excusez-moi, est un parti qui est propre.
Ah bah c'est clair.
Hein, les 300 000 euros, rien, ça passe à la trappe.
Mais tout le monde s'en fout.
Et là ils sont
les électeurs particulièrement.
C'est là où le Front National est très malin, c'est que lui le mettre de l'huile sur le feu, on reste discret.
Ah bah ils peuvent pas trop.
Comme le loup qui va sortir du bois. Mais vous voyez que pour nous la droite c'est bon, les affaires reprennent. Regardez Hollande, on se faisait chier.
Ah,
on avait rien à dire.
On s'est fait chier pendant 5 ans.
La droite n'est même pas.
Ça faut le dire.
La droite même
ah,
pas
putain,
élu, et vous
merdé.
Commencez à nous faire des malaises.
On recevait des artistes, je vous ai fait des malaises et tout. Bah non, on se faisait chier.
Non, mais avec la droite, ils sont même pas au pouvoir. Et déjà,
les affaires reprennent. Monsieur Grovitch vient d'arriver. Nos invités de tout à l'heure aussi. Et je propose qu'on s'écoute un petit disque.
Voilà, ça c'est une bonne idée, ça.
Votre petit est en train de se baffrer de je ne sais quelle denrée
bio.
Répugnante.
Ah, c'est marqué bio. Oui. Il m'a montré, j'ai vu, c'est marqué bio.
Oui.
Eh ben, c'est bio. Ça,
c'est cool.
Ça,
c'est cool. Alors, pendant que la droite la droite s'enfonce dans les scandales, que le Front National caracole avec son pendant Macron, eh bien, le gouvernement socialiste travaille, puisque Audrey Azoulay, ministre de la Culture, va signer en février un décret relatif aux critères d'interdiction aux mineurs, nous informe cette source, que je ne citerai pas parce que c'est des cons, c'est une espèce de trucs de droite, c'est chiant.
Mais pourquoi vous lisez les trucs de droite?
Oui, parce que l'ennemi, il faut connaître l'ennemi.
C'est
bref,
vrai.
L'interdiction au moins de 18 ans ne sera plus appliquée automatiquement aux œuvres comportant des scènes de sexe non simulées, mais réservées aux œuvres comportant des scènes de sexe ou de violence de nature à heurter gravement la sensibilité des mineurs, explique la ministre de la Culture. Bien, eh bien on voit qu'elle travaille.
Est-ce que c'est-à-dire que le carré blanc va disparaître?
Non. Est-ce que quelqu'un a dit à Audrey Azoulay qu'il existe Internet et que sur Internet, en tapant « Oui, j'ai 18 ans », je peux regarder n'importe quoi? J'ai pas vraiment l'impression.
Ah ben moi, Ouais, je suis honnête, moi.
Donc du coup, vous avez jamais vu.
Bah non.
C'est con. Les Russes, eux, au moins, sont
le
plus
carré
direct.
Blanc. Ça, c'est efficace. Bah, dès qu'il y avait le carré blanc, clair. Nos parents, hop, direct au lit, toi.
Mais si on avait eu Internet, le carré blanc, vous savez.
Bah, on l'aurait au lit, hein,
Allez, les Russes, tiens, c'est marrant. La violence de ce domestique va être désormais moins punie. Voilà une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir de nouveau battre son chien, sa femme et ses gosses en totale impunité.
Pas le chien!
Le chien aussi! Vous rentrez imbibé de vodka, tout le monde dérouille. Et il faudra quand même que, pour que quelqu'un porte plainte, que ce soit le chien, la SPA locale, vos gosses ou votre épouse, eh bien, il faudra quand même que les faits soient caractérisés par tas de choses, etc., afin qu'effectivement les victimes puissent prouver qu'elles le sont victimes.
Et qu'elles n'ont pas énervé leur mari. Bah oui, c'est normal.
Et le plus surprenant de cette histoire, c'est que la porteuse ou la rapporteuse, celle qui a présenté ce projet de loi, est une femme. Mmh. Voilà.
Et ce qui est assez marrant, oh, c'est vieux, il y a quelques années, ils avaient parlé de justement surtasser la vodka pour lutter contre les problèmes d'alcoolisme.
Ils ont préféré.
Ah, ils ont reculé en disant, là, si vous faites ça, c'est la révolution.
Et même ils mettaient trop de fois les bonhommes en tôle parce qu'ils tabassaient leur bonne femme, c'est fini.
Et il y a des exemples aussi dans certaines écoles maternelles qu'on demande, je parle en Russie, quand on leur demande de dessiner leurs parents, en fait, ils dessinent leurs parents par terre. ce qui est assez inquiétant. Et c'est pas, c'est pas en Pologne, une femme avait accouché avec 3,70 g dans le sang aussi, il y a pas si longtemps que ça. Là.
Non,
bon, la Pologne, c'est pas la Russie.
Vous dites ça parce que vous aimez pas les Polonais.
Bah oui, bah les anciens pays communistes, c'est pas rigolo. Un petit 10 et après on embraye sur le vif du sujet parce que leur tourne, c'est parti.
Listen, bastard, suck. You know what you saw the back when you walk around, when you move around. No matter how long you travel around, direction you can always turn around.
Change as an extension, I'm permanent transition to the perfect location. Even if you go straight, don't worry about the next day. Things are written up okay.
Yeah, don't ever expect what life could be.
Got surprises in every city.
Just cover it, cut the plate.
Love, hate, and celebrate.
It's what's in the world as I see it.
Real as a dream to know how to shift the world is your playground. From town to town, move back and forth. Sit chat in your ground.
Make the best of your 20 pleasures. Every night we do with the best people you ever met. Living love the easy way. Over sleeping every day. Only walking love by sun rays.
And make my dreams come true. That's what I do.
So shall you feel your love and survive.
The fears can't be described.
When times would you never lie?
Even if you go astray, don't worry about the next day. Still always enough for okay. Once you listen to one another, driving further and faster to the perfect location.
Beginning, crush
Ouïouïouïouïouï, aïe aïe aïe, oulala, il va se passer quelque chose de bizarre sur cette antenne. Je le sens pas, je sais pas pourquoi. Ça doit être quand j'ai l'info comme quoi les grignoux vont parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. L'effort physique, vous connaissez sûrement, eux pas. Le vrai effort physique, j'entends, celui qui fait se dépasser l'homme, qui lui permet de connaître ses limites, voire même d'apprendre la communion avec les autres. Mais bon, le sport est-il le petit frère de la guerre ? Sport pour les hommes, les vrais.
Ah, ce soir.
Eh ben, pas forcément, justement.
Ouais, pas pour les hommes, les vrais, puisque ce soir, nous recevons Aloha Beach. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Angry Stitch.
Bonsoir, Angry Stitch.
Angry, excusez-moi. Et est-ce que j'ai le droit de vous appeler Stitch, tout
simplement? Attends, on va vous donner un micro, chacun, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde.
Et vous êtes donc toutes les deux. Alors, si on dit, rolleriste, non?
Roller derbiste.
Ou roller derbiste.
Ah, on peut éventuellement dire roller derbiste, mais
on aime bien nous fabriquer des noms. Alors, ça vous embête pas si on dit roller derbiste?
Si j'ai bien compris, si vous êtes venu, en fait, c'est que Sarah n'est pas sortie de l'hôpital et que vous étiez les deux seuls présentables qui n'avaient pas de béquilles ou de plâtre. Parce que c'est vrai que le roller derbeur, c'est quand même un truc de pas de gonzasse, entre guillemets, ou pas.
Je vais aller plus loin. Les demoiselles qu'on a ce soir, ce ne sont même pas celles que j'ai eues au téléphone. Donc celles que j'ai eues au téléphone, pour un peu, elles aussi est toutes cassées.
Elles sont dans un fauteuil.
Ouais. Et donc du coup, par contre, il en reste au moins deux intactes et ça me rassure parce que le 25-26 février se tiendront à Rennes les championnats de France étape 2 nationale 1 que vous organisez. C'est donc le roller derby de Rennes qui organise ça et ça aura lieu où?
Ça aura lieu au gymnase des Chalets, c'est à côté de Carrefour Alma.
Juste en face, de quelques marches à monter. Allez-y, moi je suis allé voir un match de roller derby.
Alors allez-y, parce que le roller derby, on a un petit peu de temps quand même.
Alors le roller derby, c'est un sport de contact et de vitesse sur patin à roulettes.
Ça m'impressionne. Déjà le patin à roulettes, faut tenir dessus.
Mais c'est très impressionnant.
Non, mais, on vous dit ça. Oui.
Roger, n'y allez pas, c'est les jeux du cirque à côté, c'est rien.
J'ai une tête, allez sur des patins.
Ah, je reviens avec un t-shirt trempé de sang,
Oui, de mon nez.
Allez, on vous embête. Donc, le roller derby, en fait, le principe, alors je vous laisse, le développer.
Alors le principe, c'est donc deux équipes qui s'affrontent sur deux périodes de 30 minutes chacune. On a 5 personnes de chaque équipe sur ce qu'on appelle le track, donc la piste ovale en même temps. Donc ça fait 10 joueuses. Et dans ces 10 joueuses, il y en a deux, une de chaque équipe qui sont celles qui vont marquer les points, qu'on appelle les jammeuses, et il y en a 4 de chaque équipe qui sont les bloqueuses. Et donc le but est assez simple, les jammeuses doivent passer les bloqueuses adverses pour marquer des points, et les bloqueuses doivent empêcher les jammeuses de passer.
Donc les bloqueuses, elles bloquent, quoi. Mais quand ça bloque, ça bloque.
Bah oui, c'est ça. En fait, tous les coups ne sont pas permis.
Quand même.
Mais il y a du contact. C'est-à-dire que comme le but, c'est pour les unes de passer et pour les autres d'empêcher de passer, forcément, il y a un moment où ça frite.
Et justement, c'est un sport qui est exclusivement féminin ou est-ce qu'il y a des équipes de garçons ou est-ce qu'ils sont extrêmement minoritaires dans le milieu en général?
Alors, il y a des équipes de garçons. Il y en a une à Rennes qui s'appelle l'équipe des bonhommes. Par contre, c'est quand même un sport qui, à la base, est féminin et qui reste majoritairement féminin.
Et du coup, c'est ça aussi, c'est le côté un peu intéressant parce que j'ai vu un reportage, on en avait parlé justement avec Sarah, je crois que c'est une équipe à Bordeaux qui se professionnalisait un peu. En plus, je trouvais que ça, il y avait un bonhomme qui était, vous savez, une espèce de dent à rayer le parquet. Et je trouvais que ça perdait un petit peu de l'esprit justement dont nous avait parlé Sarah des origines. Donc est-ce que ce serait bien de mettre des normes parce que c'était aussi un spectacle, en tout cas au début, avec vous avez des costumes, etc. Et j'avais entendu parler de rumeurs comme quoi ça serait bien de supprimer les costumes, etc. On en est où de ça? J'ai entendu parler de ça en tout cas.
Y a encore un peu ces discussions en cours. Il y a plusieurs avis différents. Il y a des joueuses ou des équipes qui sont plutôt dans l'esprit sportif et qui, au fur et à mesure, suppriment le maquillage, les costumes, plutôt dans un esprit
de performer en technique et d'être plus à l'aise pour jouer dans une tenue sportive exclusivement. Et puis quand même une bonne partie des joueuses de roller derby qui veulent conserver l'esprit du sport et qui continuent à se maquiller pour les matchs.
Mais le fait de se professionnaliser, moi je trouve pas ça choquant quelque part.
Est-ce que c'est quoi la politique par contre? Est-ce qu'il y a une politique pour le roller derby de Rennes? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça, justement, par rapport à ce débat?
Bah nous, j'ai l'impression qu'on est plutôt là pour le fun, plutôt là pour le lol, et on peut tout à fait faire de la technique avec un super legging à paillettes. C'est pas embêtant, quoi.
J'aimerais pas trop que vous finissiez par ressembler. Vous savez, il y a un truc qui est très spectaculaire, les coureurs sur glace là. Vous savez qu'ils sont hyper profilés avec des casques de coureurs où qu'on voit tous les muscles.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais ça va finir par de.
Parce qu'il y a des règles strictes.
Et dommage, ouais, mais si on supprime le maquillage, etc., qu'on voit des espèces de trucs, des bodybuildés qui sont là, je sais pas comment.
Non, bah là, ce qui est à peu près obligatoire, c'est que toutes les joueuses aient le même maillot de la même couleur avec un numéro bien visible, parce que c'est ce qui permet aux arbitres d'arbitrer, de nous donner les fautes, etc. Après, c'est assez libre sur le bas, le legging à paillettes ou le mini short ou les barésies ou ce qu'on veut et le maquillage éventuellement et les décos sur le casque.
Et c'est un sport qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, en fait. On a l'impression qu'on fait des tours de piste, mais il y a des règles extrêmement strictes. Et le manuel, justement, des règles sportives, il fait pas 2 pages, hein, il me semble.
Non, il en fait à peu près 80. Oui. Y a énormément de fautes possibles, et ça, c'est lié au fait que c'est un sport qui... S'il y avait pas de règles, pourrait être rapidement très dangereux. On est sur des patins à roulettes, ça peut aller très vite.
À partir du
le ballon, c'est la grande question. Mais à partir du moment où on cherche à bloquer une joueuse, il faut qu'il y ait des règles. On peut pas utiliser les mains, on peut pas utiliser les coudes, ni les genoux,
ni les doigts dans les yeux.
Ni les doigts dans les yeux, tout se perd.
Et des pointes, vous savez, des pointes sur les gants.
Et je sais, enfin moi le seul et unique match que j'avais vu, enfin de rencontre pardon, de roller derby, c'est marrant, il y a des dates qui marquent, c'était le 31 janvier 2015. Et là par contre ce que j'avais beaucoup aimé, c'était par contre ce sont des hommes les arbitres, c'est ça qui est un peu surprenant, enfin ce jour-là par contre ils expliquaient bien, j'ai trouvé ça intéressant, où c'était pas forcément fermé pour des initiés de roller derby, où les gens qui les arbitres qui animaient expliquer la faute, etc. Ce qui fait que j'ai compris l'histoire des bloqueuses, etc., etc. Ça va être pareil dans le même état d'esprit, c'est-à-dire d'expliquer le sport qui a l'air très simple à la base, mais qui est beaucoup plus compliqué dans les faits.
Bah oui, en fait, à chaque match qui se passe, il y a des speakers ou speakerines. Donc, sur la piste, il y a les arbitres qui font leur job d'arbitre, mais qui sont un peu occupés. Et pendant ce temps-là, il y a une ou deux personnes au micro qui commentent ce qui se passe et qui expliquent pour le public le vocabulaire utilisé, qui est un vocabulaire majoritairement anglais, qui explique les fautes qui sont données aux joueuses, qui explique ce qui se passe pour que le public même qui connaît pas les règles puisse comprendre.
J'espère que comment pour le 25-26 février, comment le commentateur sera acquis à votre cause. Vous y avez pensé?
Alors même si dans les couloirs sans le micro les speakers peuvent avoir leur avis sur les équipes, il y a une règle de
pour les speakers de
oui c'est ça
oh,
de
c'est rester pas drôle. À la Thierry Roulot, toi.
et par contre petite question, c'est peut-être le hasard qui a fait les choses, mais pourquoi les arbitres et les speakers c'est plutôt les garçons et pas les filles? C'est le hasard ou c'est comme ça?
Oui, je pense que c'est le hasard parce qu'il y a aussi beaucoup d'arbitres filles et là notamment sur le championnat il va y avoir des speakerines. Je pense que c'était un concours de circonstances effectivement quand vous êtes venu, il y avait peut-être beaucoup de garçons, mais alors, c'est pas toujours le cas.
Mais c'est aussi parce que comme les filles sont sur le terrain en train de jouer, elles peuvent pas en même temps jouer et arbitrer. On manque de filles arbitres. Ça commence à se développer. De plus en plus, mais comme les joueuses sont sur le terrain en train de jouer, il y a beaucoup de garçons aussi qui aiment le sport du roller derby, mais peuvent pas forcément le pratiquer parce qu'il n'y a pas d'équipe masculine dans leur ville. Du coup, ils s'accrochent à ce sport par l'arbitrage et ils viennent arbitrer.
D'accord.
Mais plus ça va et plus on voit d'arbitres féminines sur les matchs.
Et on peut parler sport parce que du coup, là, c'est le championnat. Comment vous abordez les matchs? Vous allez jouer contre combien d'équipes? Ça va se passer comment?
Alors, sur cette étape du championnat, il y aura 6 équipes.
6 équipes, oui. Elles viennent d'où ?
Alors on a
wow.
On a une équipe qui nous vient de Nantes.
Ah comment ils s'appellent? Parce que moi ce que j'adore c'est les noms des équipes.
Ouais, c'est vrai que c'est rigolo.
Alors là c'est l'équipe de Nantes qui s'appelle les Divine Machines.
Elles viennent avec les ours, avec les éléphants de l'île aux machines.
Il y aura Orsay Roller Derby. Orsay qui est une ville proche de Clermont-Ferrand. Il y aura les Panthères Graou, une équipe qui vient de Saint-Gratien dans le 94. 95, je sais pas.
Du moment que ce soit pas le 93,
oh, 95,
ils sont rudes là-bas, là.
Quand même.
Il y aura une équipe du DCCLM, c'est Montpellier. Montpellier et sa région. Il y aura la Bloca Nostra de Roller Derby Toulouse. Et puis, les Déferlantes de Roller Derby Rennes.
Les Déferlantes, c'était un nom avant nous,
Il y a deux équipes.
Il y a deux équipes à Rennes.
Il y a deux équipes à Roller Derby Rennes. Il y a l'équipe des Déferlantes, qui est donc l'équipe A, avec le meilleur niveau, et il y a l'équipe des Vilaines, qui est l'équipe B.
Bah oui, c'est normal.
Est-ce que ce sont des équipes, vous toutes les deux, vous jouez, chez les Déferlantes?
Moi, je joue chez les Déferlantes, oui.
Et moi, je joue chez les Vilaines.
Allez, vous allez monter, vous allez monter.
Et est-ce que comment, dans ces récits, il y a par exemple des blessés au cours des...
Rarement,
au cours des matchs, c'est rare. Allez, non, mais on dit ça, on voudrait pas vous porter de la passe. Attendez, normalement, quand les gens passent chez les Grignoux, on leur porte bonheur, je vais vous assurer.
Vous allez finir première, en fait.
Ah ouais, ouais, non, c'est une vertu première, c'est un peu un pèlerinage. D'ailleurs, les anciens le savent bien, hein, comment... Ils sont nombreux, d'ailleurs, à la mairie de Rennes, à passer régulièrement, s'ils veulent une bonne élection. Et donc, comment dirais-je? Ne vous inquiétez pas. Par contre, quand je vois les noms, moi, les Panthères Gras ou les Bloca Nostra, etc., est-ce que ce sont des équipes que vous avez déjà rencontrées?
Alors, en fait, là, c'est l'étape 2 du championnat. Et il y avait la première étape qui s'est jouée à Toulouse en novembre. Donc, il y a certaines de ces équipes qu'on a déjà rencontrées. Et donc, on avait joué en novembre, on a joué contre les Panthères Graou, contre Montpellier et contre Orsay. Et donc là, le 25 et 26 février, on joue contre Toulouse, la Bloca Nostra, et contre les Divine Machines de Nantes.
Et vous aviez gagné lors des deux premiers matchs?
Non, on a tout perdu.
Je savais parce que vous le disiez pas. Je m'en doutais. Vous savez comment je sais quand l'équipe de France a perdu un match, par exemple au rugby, quand j'allume France Info, en vieux sourd que je suis, voyez, pouf, j'allume France Info, puis oui. Alors en bref, handball.
Le coach.
On ne parle pas du rugby. Si on ne parle pas du rugby, c'est qu'on a perdu et vous ne me donniez pas le score. Mais bon, là, vous êtes remonté là.
Oui, en fait, l'équipe des Déferlantes a beaucoup changé en début de saison là, avec des joueuses qui sont parties vivre ailleurs ou jouer du roller derby ailleurs. Du coup, on reconstruit une équipe, on reconstruit un collectif. Quand on a fait l'étape à Toulouse en novembre, c'était un peu le premier gros tournoi en équipe. Donc on apprenait un peu à se connaître, à jouer ensemble, avec peu de temps d'entraînement avant. Et là, on a eu bien le temps de se préparer et on est d'attaque pour la deuxième étape.
Yes. Et est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour faire une troisième équipe qu'on pourrait, pas la A ni la B, on va dire la F, que les Grignoux pourraient sponsoriser en fait, et qui s'appelle les Grignoux. On paiera les maillots, pas le plâtre, hein, par contre. Les béquilles, m'en reste. Ah, j'ai quelques béquilles qui traînent dans ma cave éventuellement.
Une petite question, il me reste un petit peu de temps. Une petite question technique, je sais pas, vous êtes peut-être pas au courant, mais comment ça s'est organisé? Ça coûte des sous faire venir toutes ces équipes là, vous les loger, etc. Où il y a, vous commencez à avoir un soutien. Il faut que vous réserviez une salle, faut monter la piste. La piste est provisoire. Tout ça, ça coûte un peu de sous. Je sais pas.
Comment vous financez ça en fait, tout simplement?
On finance majoritairement les dépenses qu'on a par les entrées qu'on fait payer au match.
Qui sont très chères.
C'est pas très cher. Enfin, tout est relatif. Ça dépend de
combien
de chacun. Là, pour le championnat, on fait un pass de jour à 10 euros et le pass de la journée à 6 euros.
À 6 euros. Et petite question, il y aura des crêpes?
Il y aura des crêpes.
Bah, il n'y a pas de buvette, mais au moins, il y avait des crêpes.
Si, il y aura une buvette. Sans alcool.
Oh,
mais il y aura une buvette quand même.
Alors, en général, sans vous le dire à hors antenne,
faut jamais dire.
Il est de bon ton que quand les Grignoux, on vient après dans une manifestation qu'on a un petit peu promotionnée, il y ait un petit truc derrière la buvette, vous savez, une petite bouteille de n'importe quoi avec une tête de mort dessus.
Orangina,
quelque chose.
Coca.
Ouais, vous mettez ce que vous voulez dessus. Et vous pouvez compter sur nous pour faire la claque, quoi. Et mon bon Jean-Loup me fait signe que l'heure tourne.
Oui, c'est moi le méchant.
On rappelle, un 25-26 février, le championnat de France, étape 2, National 1. Ça veut dire que vous allez tout remporter et vous allez changer de division?
Alors là, il n'y aura pas de changement de division parce que là où on est dans le classement, même si on gagne les deux matchs, on restera en National 1. Il aurait fallu tout gagner pour passer dans la division au-dessus ou tout perdre pour passer dans la division en dessous. Et comme on va gagner, on va rester.
Mais bien sûr, vous allez gagner, vous êtes passé chez nous, donc désormais, c'est bon.
Vous avez une bonne mutuelle, sinon?
Mais non, arrêtez.
Mais non, mais moi, ça m'inquiète, parce que moi, j'ai vu un match de roller derby, moi, monsieur.
Vous allez en fiche d'un poisse.
Par contre, à signaler aussi qu'il y a une super ambiance. Le seul match où j'ai assisté, c'est vrai que c'est... c'est rigolo, quoi. C'est vraiment rigolo, c'est à voir. En plus, s'il y a des speakers ou les speakerines qui expliquent très, très bien, comme j'ai vu la dernière fois,
justement,
ça vient même très intéressant.
Il y a toujours une super ambiance dans les matchs, mais je pense que le meilleur moyen de s'en rendre compte, bah, c'est de venir,
aller,
en fait.
Quoi, là. Et c'est pas compliqué, vous prenez le C3, arrêt
26
Alma.
Février, on va où-sc?
On va au gymnase des Chalets, rue du Bosphore, à côté de Carrefour Alma.
Voilà, grosso modo,
chez vous.
Oui,
c'est pour ça qu'il y va, l'enfant. Voilà. J'avais pas fait le lien.
Évidemment.
Cette grosse loche, il quitte pas.
Non, mais, pour simplifier, vous prenez
le C3. Il peut se la péter.
Attendez, je peux faire un peu de pub.
En fait, vous enlevez vos chaussons. Vous mettez vos chaussures,
non,
vous enlevez votre peignoir, vous gardez vos chaussons,
oui, parce que
déambulo, vous le laissez à l'entrée.
Je prends le C3 qui m'arrête station Alma, et là je monte 5 marches, et je suis au gymnase.
Vous n'avez donc aucune excuse, et vous vérifiez qu'il y a une bouteille derrière la buvette, vous prévenez vos copines, et donc du coup on fait comme on a dit, et on sera là le 25-26 février.
Venez.
Je passe par chez vous avant.
Ah bah oui, évidemment que je vous prenne des chaussons. Alors vous, merci d'être intervenu et bon courage. Et puis
pas bon courage, on dit elles vont
gagner.
Ouais. Hey,
we got to ride to lose control.
Roger, Jean-Loup et Tintin sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête, Oh, ça c'était Roger, faut dire, il se blesse tout le temps, et en plus il est vachement douillet, puis y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh les gars, vous avez pas entendu quelque chose? Bah non, quoi. Bah une sorte de grognement, bah non. Jean-Loup, il entend des bruits tout le temps. Ouais, bah je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. C'est la rubrique Les Animaux.
Ouais, alors camembert. Voilà. Eh bien voilà, nous n'avons plus de lumière rouge, mais c'est pas grave, on sait que normalement on est à l'antenne et on sait que normalement on reçoit monsieur Pierre Javaudin. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour son ouvrage Une ruche dans mon jardin pour une apiculture naturelle et familiale. Alors on a trouvé trace justement de la parution de cet ouvrage je crois que c'est dans l'espèce de petit agenda adjoint à la revue Nouveaux Îles pour être précis. Et c'est vrai qu'ils ont l'intelligence dans cette rubrique là de faire une chronique de tout ce que les gens du coin, Rennais et autour de Rennes, vous voyez, dans le département, réalisent comme livres, ouvrages, expositions, etc. Et c'est là que j'ai découvert effectivement l'existence de votre ouvrage, parce que bah, quelque part, je trouve que c'est tout à fait révolutionnaire. On va revenir plus en détail là-dessus. Mais en tout cas, du coup, votre concept, c'est que, un, on peut avoir une ruche dans son jardin,
oui,
mais que, deux, peut-être bien qu'il va falloir quand même qu'on pense que bah, les abeilles, c'est aussi bah, des êtres vivants et que bah, aujourd'hui, on leur fait quand même un petit peu pas mal de misère, à elles aussi.
Des misères, tout dépend de l'apiculture qu'on pratique. Mais une apiculture plus ou moins professionnelle, effectivement, et je respecte là-dessus tout à fait les professionnels, c'est d'obtenir un maximum de miel d'une ruche pour pouvoir en vivre et pour pouvoir en vendre. Moi, mon concept, c'est plutôt, côté amateur, côté vraiment ruche de loisir, de permettre à chacun d'avoir une ruche au fond de son jardin, de récolter un petit peu de miel, mais surtout de ne pas utiliser une machine à produire du miel, pas une ruche productive, mais plutôt une ruche
naturelle.
Oui, naturelle, tout simplement. Alors, le côté naturel, c'est parce qu'on laisse, en fait, les abeilles fabriquer elles-mêmes leur cire. On les observe, on les accompagne, mais on n'est pas là pour les pousser à produire. Voilà.
Alors, petite précision, vous n'êtes pas apiculteur.
Je ne suis pas, je me considère pas apiculteur. Je me considère plutôt apiman, quelque part.
Ça, on aime bien ça.
Ou mieliste. Voilà. J'aime bien mieliste. C'est plus français, là.
Non, mais apiman, il
l'a. Abiste.
Oui, aussi. Enfin, on peut, l'apiculteur, dans apiculteur, il y a le côté amateur, puisque 70% des Français sont des apiculteurs, enfin 70% des apiculteurs sont des amateurs, ont moins de 10 ruches. C'est énorme. En fait, une grande partie des apiculteurs ont tout simplement quelques ruches. Et il y a aussi l'autre partie, bien sûr, où là, il y a des professionnels. Alors, professionnels, c'est à partir d'une centaine de ruches, 150 ruches. Ça peut aller jusqu'à 400 ou 500 ruches. Mais pour la partie amateur, la partie papiculteur, je dirais, eh ben, tout simplement, quelques ruches dans son jardin, c'est quand même un loisir. Mais le problème, c'est que la ruche proposée, la ruche qui existe depuis une centaine d'années, c'est la ruche d'Adam. Elle a des avantages, certes, mais là aussi, malheureusement, des inconvénients. C'est-à-dire que, déjà, on
la ruche d'Adam, c'est bien la ruche verticale.
Classique. Voilà, tout simplement, des morceaux empilés les uns sur les autres.
On l'a toujours vu.
Oui. Qui, de mémoire d'homme, on ne connaît pas ainsi que cette ruche, parce que ça fait un peu plus de 100 ans que cette ruche existe. Elle a révolutionné quand même l'apiculture. La ruche d'Adam a permis, c'est-à-dire qu'avant la ruche d'Adam, il y avait des ruches par secteur. C'est-à-dire que chaque région avait sa ruche. Il y avait des ruches en paille, des ruches en terre, des ruches en bois. Enfin bref, chacun faisait sa petite ruche un peu à sa façon. À l'époque, il y avait énormément d'abeilles, ça posait pas de souci, parce que pour récolter le miel de ces ruches-là, la plupart du temps, on tuait les abeilles. C'est-à-dire, avant la ruche d'Adam, soit on noyait, soit une mèche de soufre, on supprimait les abeilles et on récoltait
après le miel. D'accord.
On s'en foutait un petit peu, des abeilles, il y en avait partout et elles revenaient. La ruche d'Adam, elle a au moins permis ceci, c'est, avec des cadres à l'intérieur, de pouvoir retirer le miel sans supprimer la colonie d'abeilles. Donc ça a été un vrai progrès. Ça a été le père de l'apiculture moderne.
Et moderne. Industriel, je me souviens avoir vu des documentaires justement en Australie, aux États-Unis, où on trimballe carrément, c'est des 38 tonnes qui trimballent.
Ah, mais c'est pas en Australie. Un professionnel, quand vous consommez un miel
sur des 1000 kilomètres, quoi. Là.
Si vous consommez un miel de lavande, Vous croyez qu'il y a 50 hectares de lavande autour de votre ruche?
C'est ce que je croyais.
Eh ben, mais non. Tout simplement, on va déplacer les abeilles sur les champs de lavande. Ça va durer quelques semaines. Quand elles ont fini la lavande.
Transhumance d'abeilles, en fait.
C'est de la transhumance.
Vous parlez en France?
Bien sûr.
Je savais pas que ça existait cette pratique.
Et donc, quand la lavande est terminée, on recharge tout le monde dans le camion, on file dans les Vosges pour faire du sapin, après on file ailleurs pour faire, voilà. Mais les abeilles suivent les floraisons, et comme ça on récupère un maximum de miel, et donc du monofloral. C'est-à-dire du miel d'acacia, du miel de lavande, du miel de enfin bref.
Mais là c'est de l'arnaque, en fait.
Non, c'est pas de l'arnaque.
Vous avez vraiment un miel.
C'est pas du miel du pays, en fait.
Vous avez vraiment un miel de, un miel d'acacia, si vous voulez un miel d'acacia.
Bien sûr.
Mais,
Sauf que, il y a la transhumance.
Oui, moins d'avoir un champ d'acacia. D'ailleurs, c'est pas de l'acacia. On l'appelle le miel d'acacia. Mais en fait, c'est un miel de robinier. Le robinier, c'est le faux acacia. Déjà, ça commence comme ça, mais bon, le miel d'acacia n'est
ça
pas un miel
d'acacia.
Oui, ça commence bien, ouais. Et pour le miel d'acacia a un gros avantage, c'est qu'il est doux, c'est qu'il est liquide, donc bien sûr, c'est le miel le plus vendu en France et tout le monde s'y accroche à ce miel. Mais dans une apiculture de jardin, dans une apiculture de loisir, on va pas transporter sa ruche, on va la laisser sur place.
Aller chez le voisin boire l'apéro avec sa ruche sous le bras.
Non.
S'il a mis plein de fleurs.
Le meilleur moyen, c'est peut-être d'inviter le voisin à prendre l'apéro chez soi, c'est peut-être plus simple que d'amener la ruche.
Ils amènent des fleurs.
Voilà. Et, donc c'est une ruche qui reste sur place, sachant que les abeilles volent à peu près pour aller chercher leur nourriture à peu près 3 km autour d'une ruche, ce qui fait à peu près quand même une zone de 70 hectares. Va récupérer comme ça toutes les fleurs qu'il y a dans le secteur pour aller chercher le nectar, pour faire leur miel. Et selon l'endroit où vous habitez, eh bien, vous aurez du miel qui sera plus ceci ou plus cela, bien évidemment, selon les plantes qu'ils vont rencontrer. Mmh. Si vous êtes en pleine campagne avec de la monoculture, c'est la catastrophe. Si vous avez des champs entourés de champs de tournesol, alors c'est sûr, au moment du tournesol, ils vont aller en pleine dent. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont manger? Et avant,
quelque chose de surprenant aussi, quand on habite en ville, on s'imagine en ville, le miel de la ville, il est peut-être plus sain, entre guillemets, que le miel qu'on retrouve dans les monocultures.
Le miel de ville, l'INRA a fait une grande étude là-dessus. Où sont les abeilles en France? Je vais revenir à l'histoire de la qualité du miel. L'INRA d'Avignon, qui est spécialisé un petit peu dans la partie apiculture en France, qui a tout simplement analysé un petit peu où vont les abeilles butiner. Il s'était dit, de toute façon, le miel de ruche en ville, il y a plein d'abeilles en ville. Donc, on va faire tout simplement des pièges. Ils ont mis 80 pièges sur une très grande surface au cœur de Lyon, dans les quartiers, dans les zones industrielles. Ils sont éloignés jusqu'en les campagnes. Et pendant 4 ans, hein, toutes les semaines, les étudiants récoltaient ce qui tombait dans ces pièges en forme de fleurs avec de l'eau sucrée. Ils ont éliminé tout ce qui n'était pas abeilles et ont récolté uniquement les abeilles. Et là, ils ont mis à compter. À vérifier. Alors, il se passe une chose très 4 ans, hein, c'est pas rien. Hein. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a quand même plus d'abeilles en campagne qu'en ville, en centre-ville. Mmh. Ça, c'est sûr. Par contre, où sont les abeilles? Il y en a encore plus d'abeilles, c'est toutes les zones périphériques. Toutes les zones périurbaines.
Avec là, les maisons, avec jardins, des
petits jardins.
Voilà, avec des floraisons relativement longues. Mmh. Alors, déjà, il y a une histoire d'alimentation, certes, parce qu'il y a plus de fleurs, plus de ceci et cela, mais il y a aussi une température un petit peu plus élevée, 2 degrés à peu près par rapport à la campagne, ce qui donne des floraisons encore plus importantes et plus longues, et puis surtout il n'y a pas de pesticides.
C'est-à-dire que
les gens mettent pas trop
bien sûr dans leur jardin quand on a ses tomates, on va pas à une certaine époque ils traitaient à tout bout de champ.
Oui, mais maintenant les gens commencent à moins le faire.
Et puis maintenant les municipalités ne peuvent même plus traiter avec des produits chimiques. Et donc les abeilles se retrouvent en zone périurbaine, dans les zones où il y a des jardins, et d'où l'idée d'une ruche dans son jardin, parce que finalement on peut les accueillir tout simplement chez soi.
Alors, je vous coupe parce que je vois comment on leur tourne un petit peu. Et puis, il est déjà 21h15. Il y a déjà une question de base qu'on vous a même pas posée. Comment vous êtes tombé dans la ruche?
C'est marrant. J'ai exactement vous poser la même, en fait.
Comment vous êtes couple? Mais, avant de poser cette question-là, je voudrais rappeler que, comme le Père Noël, vous n'êtes pas arrivé les mains vides. Vous êtes arrivé également, en compagnie de 3 exemplaires de votre ouvrage, Une ruche dans mon jardin, paru aux éditions Larousse. On reviendra là-dessus, comment s'est fait la rencontre. Et en plus de ça, chers auditeurs, vous pouvez les gagner pour ça. C'est simple. Au cours de l'émission, vous écouterez bien ce qui se dit, parce que monsieur Pierre Javaudin est très précis sur l'abeille. Et donc, du coup, vous écouterez bien, il vous posera une question. Vous pourrez téléphoner au moment où on vous dira, on écoutera un Dix, et ça sera le moment ou jamais de gagner le moyen de, fabriquer ça.
Et de gagner, et c'est gratuit.
C'est gratuit. Ah bah, vous en coûtera peut-être préciser, un coup. Si ça verra comment on se donnera rendez-vous pour l'envoyer. Enfin.
Ah justement, comment vous êtes tombé dedans ou qu'est-ce qui vous a piqué
Non, je suis ni tombé dedans ni piqué. Tout simplement, un jour, j'ai découvert un essaim d'abeilles accroché dans l'arbre de mon jardin. Et premier réflexe, c'était de dire aux enfants, allez hop, rentre à la maison,
au secours,
protège tout le monde. Et puis moi, petit à petit, de quart d'heure en quart d'heure, j'approchais de cet amas d'abeilles accrochées à 2 mètres d'eau. Et curiosité, vraiment, vraiment, vraiment curiosité. Plus je m'approchais, je me rendais compte, en fait, c'était pas d'agression particulière. Et j'ai donc joint un apiculteur pour lui dire, bah, voilà, il y a un essaim d'abeilles dans le jardin, est-ce que vous pouvez venir? Ouais, je vais venir. Puis le fait, le temps qu'il arrive quelques heures plus tard, l'essaim était parti. Et je me suis dit bêtement, bah, tiens, s'il y en a un qui s'accroche ici maintenant cette saison, peut-être que l'année prochaine, il y en aura un autre à venir au même endroit. Et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur une ruche, parce que je me suis dit, finalement, je récupère cet essaim, je mets dans une petite boîte carrée avec un toit en forme de chalet, c'est mignon comme tout, et puis comme ça j'aurai un petit peu de miel. Et là j'ai été drôlement surpris. En fait, je me suis rendu, n'y connaissant rien, j'ai vraiment cherché, je me suis dit, mais attends, dès que je tape apiculture ou apiculteur, ou dès que je tape ruche, ou dès que je tape miel sur notre ami Google et compagnie,
rien
de ce qui pouvait être simple. C'était tout de suite
ruche d'Adam.
Oui, alors ruche, moi j'avais pas d'a priori sur les ruches, hein. C'était ruche ceci, cadre cela, désoperculateur, maturateur, machin. Je dis, mais il faut presque une entreprise derrière pour extraire un petit peu de miel. Je comprenais pas tout ça. Je me suis dit, bon, je me suis peut-être planté, c'est peut-être plus professionnel. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment qu'un seul type de ruche. Il y a qu'une méthode pour faire de l'apiculture. C'est celle qu'on enseigne encore dans les ruches à l'école. C'est une méthode professionnelle. Avec une ruche professionnelle. Voilà. Donc j'ai commencé à taper ruche en anglais et je suis arrivé comme ça sur un site américain où on parlait de top bar hive, de ruche horizontale. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que cette ruche venait en fait d'Europe. C'est une ruche qui était utilisée en Corse, en Crète, en Grèce, en Slovénie, des ruches tout simplement en tronc d'arbre creux qui étaient horizontales comme ça. Et cette ruche, en fait, a intéressé un moment de temps les Canadiens, l'université de Dieppe, très exactement, où les ONG américaines qui étaient à l'époque en 75 dans la partie d'Afrique, de la partie est de l'Afrique, qui était vraiment en grand désarroi parce qu'il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, se disaient, nous, on aimerait bien avoir une ruche en Afrique, mais quelques planches faciles, pas d'outils particuliers. Et donc, les Canadiens ont récupéré un petit peu tout ce qui traînait comme ruche depuis quelques siècles un petit peu. Ils sont tombés sur cette ruche, ils l'ont améliorée, ils l'ont envoyée en Afrique. Du coup, quelques planches très rapides, pas de cadre, pas de désoperculateur, pas de rien, aucun matériel particulier. Finalement, ça donnait de bons résultats. Ça permettait au moins aux populations sur place d'échanger du miel contre de la nourriture, vendre un petit peu de miel. Et puis, bien sûr, le retour de tout ça aux États-Unis, ça a été, ben voilà, on a mené quelques opérations, cette ruche existe, ça fonctionne bien. Et bien sûr, ce qu'ils ont fait, certains profs, surtout des profs d'université, ont récupéré le concept et l'ont installé chez eux. Et aux États-Unis, ça a pris. Et puis, dans les années 2000, il y a un Anglais qui s'est intéressé à ce type de ruche, qui l'a ramené aussi en Angleterre. Et puis, voilà, de fil en aiguille, elle est arrivée en France.
Elle n'a pas arrêté de se promener, en fait.
Elle n'a pas arrêté de se promener, et cette ruche qu'on dit ruche kenyane, ruche horizontale, ruche exotique, parce qu'elle a un côté africain, en fait, vient de chez nous. C'est une ruche d'ici.
À l'origine.
Voilà.
On s'écoute un petit disque et on continue notre... à moins qu'il y ait une petite question à poser.
Alors, je sais pas, peut-être que Pierre, vous avez envie de poser une question. Et pendant le petit disque, eh ben, les gens pourront téléphoner au 02-99-52-117-66.
Allez-y plus vite pour
vous. Ils le savent, 02-99-52-117-66.
77-66, en passant par le 02-99, c'est ça.
Quelle serait votre question, Pierre? Je crois que vous avez travaillé dessus.
Alors, la première question que je pourrais poser, c'est que fabrique une abeille dans une ruche?
Alors,
il y a qu'un seul élément qu'elle fabrique véritablement. C'est lequel?
Alors là, il y a que attention.
On peut donner le choix. On peut parler.
Non, on peut parler de rien du tout.
De rien. On peut donner le choix entre trois solutions.
On aidera s'il n'y a pas de réponse, mais oui. Que fabrique donc
la question? Que fabrique une abeille dans une ruche?
Quantité.
Fabrication. On parle bien que l'abeille fabrique quelque chose.
Fabriquer. C'est parti, un petit disque. 02-99-99-99-99.
That's over. Yeah. Somebody told me I got too much soul. Somebody told me that I'm sounding too old. Somebody told me I got too much style. Somebody told me that I'm too damn wild. The more you talk, the more I get mad.
Just when you think I'm good, I do bad. I'm not like other guys, you won't understand. I'm from the future, you're living in the past. Cause I'm ready. So cool. Somebody told me that I look like a fool. Somebody told me that I sound so fake. Somebody told me what I'm doing is great. You wanna stop me, but I'm way too fast. Permanent number one, permanent number two, then I dash. And now at last I can take off the mask. Jump in my soul, rocket ready to blast. Cause I'm ready.
Et voilà, le premier exemplaire vient d'être gagné. Justement, que produit l'abeille Fabrique.
Ce qu'elle fabrique, parce qu'elle produit du miel, mais le miel, bien sûr, elle récolte du nectar à l'extérieur de la ruche, le mélange à sa salive pour faire le miel. Enfin, plusieurs salives, parce qu'elles sont plusieurs à le fabriquer. Mais ce qu'elle fabrique véritablement, ce qui sort de l'abeille, c'est de la cire. Il y a des petites pellicules de cire, il y a 8 petite plaquette de cire qui sort pendant quelques jours des jeunes abeilles et qui produit la cire et c'est avec ça qu'elle fabrique ses rayons.
Alors une petite question, parce que leur tourne, on a plein de choses à dire. C'est vrai qu'on parle de la ruche de jardin quelque part. Est-ce que c'est pas un frein quelque part? J'imagine les parents, une ruche au fond du jardin, mes enfants, ils vont être piqués, etc., etc. Est-ce que c'est aussi agressif que ça, une abeille?
C'est naturel. Cette réflexion est naturelle. Mais il faut savoir une chose. Le plus vieux rucher de France est au cœur du jardin du Luxembourg à Paris. Ça fait plus de 100 ans. Ça fait plus de 100 ans qu'il y a une quarantaine de ruches en plein cœur d'un parc où des poussettes passent tous les jours. Alors que les personnes ignorent qu'il y a autant de... Parce que dans une ruche, il y a 30 000, 40 000 abeilles. Quand même, vous multipliez par le nombre de ruches, voilà ce que ça donne.
Il y en a beaucoup.
C'est à peu près à 30 mètres des jeux d'enfants. Et si elle doit être à 15 mètres du boulodrome, où tous les jours, il y a des gens qui jouent au boule. La plupart ignorent complètement qu'il y a ces ruches depuis un siècle. Si depuis le temps qu'elles sont installées, il y avait eu des soucis, je pense que la mairie de Paris aurait fait quelque chose pour les déplacer. Donc, naturellement, l'abeille n'est pas agressive. Bien
c'est
évidemment.
C'est pas comme la guêpe qui vient vous pourrir le pique-nique.
Oui. Alors, l'abeille ne viendra pas chercher, de le même matériau. Elle va pas chercher du sucre.
Ouais.
Elle va, l'abeille vient chercher, bien sûr, du sucre. Va même picorer dans le verre de bière. Va aller piquer, l'abeille, oui. La guêpe, oui. Mais pas l'abeille. L'abeille
ne va pas. C'est marrant, comment tous les matins, pendant un été, dans le jardin, j'ai déjeuné dans le jardin, mon thé avec du miel. Mmh. Et, j'avais une abeille qui se posait sur le pot de miel, pouf,
bien
et qui venait bouffer du miel.
Bien sûr, oui. Mais l'abeille, aime le miel. L'abeille stocke du miel pour elle. C'est sa nourriture. Donc si elle en trouve du tout près, elle va pas gêner. Et d'ailleurs, entre certaines ruches, quelquefois, quand il y a trop de ruches dans un endroit trop confiné, on voit quelquefois des champs où il y a 40 ruches ou 20 ruches, c'est une folie, puisque bien évidemment, les ruches les plus faibles ne pouvant pas moins se défendre, il y a du pillage de ruches, du pillage de miel dans les ruches. Alors qu'en ayant quelques ruches un peu éparpillées un peu partout, le risque est quand même moins important.
Mais une ruche dans un jardin, c'est pas dangereux.
Non, bien sûr.
J'ai posé la question à Tom qui est en train de, je sais pas ce qu'il fait, en train de s'endormir tranquillement. Vous qui êtes père de famille, qui êtes très pointu justement là-dessus, ça vous intéresserait d'avoir une ruche dans votre jardin?
Ouais, du coup j'y pense, ouais.
Mais alors,
ça me donne l'idée.
Alors moi j'avais noté, moi, ruche de jardin, je veux bien, mais quelle surface?
Ouais, voilà.
Moi j'ai un jardin, mais est-ce que chez moi je peux le mettre, par exemple?
Alors, il y a chaque municipalité, chaque maire, chaque préfet peut décider que dans son territoire qu'il gère, il impose une certaine distance avec les voisins. Et c'est variable selon la municipalité ou la mairie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ruche est un élevage. Et c'est le code rural qui gère un élevage. Et le code rural dit, peu importe la distance qu'il y a avec l'environnement, peu importe ce qu'a dit la mairie, en gros, c'est à partir du moment où la ruche est distante de 2 mètres du voisinage, de la limite de propriété, et avec une haie sèche ou une haie vive de 2 mètres de haut, on peut installer une ruche.
Ça, c'est légal, en fait.
Ça, c'est légal.
Mais de manière pratique, quelle est la surface de mon jardin pour que...
Il n'y a pas de surface, puisqu'elles font jusqu'à 3 kilomètres. Donc, de toute façon...
Elles font 3 kilomètres autour de leur ruche pour chercher...
Ce que je veux dire, moi, en tant que... même si je ne le suis pas, en tant que parent, ou j'ai un jardin de 10 mètres carrés, je peux mettre une ruche...
Oui, bien sûr. L'important, c'est que la ruche, il y a une porte d'entrée dans cette ruche, donc qui correspond à la piste d'envol. Et bien évidemment, les abeilles qui décollent, n'aime pas rencontrer
un obstacle.
Donc, il peut être considéré comme agression. Donc il faut absolument, dans ce cas, c'est orienter la ruche. Alors il y a une notion bien sûr de vent, de pluie, etc. Mais plutôt pas dans un passage, tout simplement. Ça c'est la première règle.
Alors moi maintenant j'aimerais revenir un petit peu, alors c'est ce que j'ai un peu découvert dans votre ouvrage, fort bien fait, alors il n'en reste plus que deux, je tiens à le dire aux auditeurs, il n'en reste déjà plus que deux, et j'ai enfin découvert comment les abeilles fabriquaient leurs alvéoles, etc. Alors là on est quand même aux limites de la physique, parce que c'est totalement fabuleux, en fait ces fameuses alvéoles dans les élevages industriels, on va dire, ou dans les élevages ou dans les ruches classiques, les alvéoles sont préfaites.
Oui, les apiculteurs... Certains apiculteurs, mais la plupart, la ruche classique, la ruche d'Adam, pour prendre elle, mais il y a aussi une ruche soirée, mais on met tout simplement des cadres avec une cire, une feuille de cire préfabriquée, avec déjà le dessin de l'alvéole.
Donc elles ont plus qu'à pondre la larve là-dedans.
Elle augmente quand même la surface. C'est une base de travail et elle augmente. Alors les apiculteurs ont mis ça en place tout simplement parce qu'ils estimaient que pendant que l'abeille construisait ses rayons, elle n'allait pas butiner. Donc, pour gagner un petit peu de temps, on prépare...
Arbeit, c'est Ford qui a inventé ces ruches-là, ou quoi?
C'est plutôt les abeilles qui ont peut-être inspiré Ford.
Non, parce que ce que dit Pierre, c'est que pour que, elles vont pas perdre de temps à fabriquer les alvéoles, elles vont aller bosser.
J'écoute l'émission, Roger.
Non, mais j'entends bien. Mais là, en fait, dans la nature, elles fabriquent leurs alvéoles.
Oui. Et puis, en plus, c'est un peu une erreur quand même, parce que les jeunes abeilles, ce sont les jeunes abeilles qui produisent de la cire. Elles ont quelques jours. Et donc, elles sont au début de leur vie dans la ruche. Et elles n'iront butiner des fleurs que beaucoup plus tard. Donc, de toute façon,
ça sert à rien.
Elles vont pas butiner. Voilà. Donc, elles vont rester à l'intérieur. Alors, bien sûr, pour fabriquer de la ruche, par contre, elles consomment du miel. Leur faut de l'énergie. Et donc, ça fait baisser peut-être un petit peu plus les réserves. Mais bon.
Alors, comment elles fabriquent ça? Moi, je suis quand même moins épaté, puisque donc, dans la nature, on obtient ce résultat totalement parfait. C'est des hexagones, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Comment elles fabriquent des hexagones parfaits? Elles n'ont pas d'équerre, elles n'ont pas de maître.
Elles ne savent pas fabriquer un hexagone. Les abeilles fabriquent des cercles. Uniquement des cercles.
Ouais.
Mais cette cire étant chauffée et comprimée, c'est un peu comme si vous preniez de la mousse de pec citron au-dessus d'un évier, vous avez plein de bulles, vous resserrez un petit peu ce tas, et qu'est-ce qui va se passer? Vous le voyez, entre les bulles, il y a des traits. Vous voyez?
Est-ce que c'est la forme la plus logique?
C'est la forme la plus économe en matière
et en surface
et la plus efficace en surface. D'accord. Et donc en resserrant ceci, ben, l'hexagone se crée. Donc l'abeille ne sait pas fabriquer de l'hexagone, c'est fabriquer juste du cercle.
Mmh. C'est pour ça, moi j'habite dans un immeuble classé historique, justement où il paraît que ma devanture ressemble à
une ruche.
À une ruche.
C'est vrai que ça m'a souvent fait penser à ça. Vous avez raison. Mais donc du coup, alors comment ça se fabrique ? Alors vous, dans vos ruches horizontales, il n'y a donc pas d'alvéoles préfabriquées. Ce n'est pas horizontal. Je le dis aux auditeurs, imaginez un espèce de petit chalet de montagne avec un petit toit pointu, pouf pouf, tout mignon d'ailleurs, et avec une ouverture sur le devant,
très large, tout en largeur.
Ouais, c'est plus en largeur. Non, c'est plus en longueur.
Et je confonds.
Désolé, je suis pas de plus en longueur qu'en largeur. Et à comment elles vont fabriquer leurs rayons dans votre ruche, sachant que là, il n'y a rien de préformé.
Il n'y a rien. En fait, c'est une ruche qui est vide.
Voilà.
Il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Voilà. Il n'y a rien, sauf des barrettes qui sont,
au plafond.
Qui forment le toit. Tout ça. Top bar rêve dit toit de, enfin, ruche en latte. Ce sont des petites lattes de 35 mm de large. Les abeilles s'accrochent au plafond. Et forme un rideau entre elles. C'est comme un rideau. C'est très, très, très souple comme ça. Et celles du bas commencent à sortir leur petite cellule de cire, leur pellicule de cire, passe à celle du dessus, qui elle passe à celle du dessus, qui passe à celle du dessus, et celles qui sont tout en haut fabriquent ces cercles qui vont tasser. En fait, c'est tout est produit par ce rideau d'abeilles qui pend à une petite barrette, tout simplement.
Et ça commence par le bas, en fait.
Ça commence par le haut.
Par le haut?
Ça commence à s'accrocher en haut, et puis c'est celles du bas qui fournissent les premières pellicules de cire.
D'accord.
Mais ça commence, les abeilles s'accrochent en haut.
Et donc, du coup, au cœur de chaque rayon. Alors, mais la reine, elle est où, la reine?
Eh ben, elle est au centre.
La reine, oui, on peut dire, la reine est au centre. Pas au centre de la ruche, mais au centre de la partie qu'on appelle couvain, au centre où sont toutes les, au centre de la maternité. Vous voyez? Et la maternité se trouve au tout début de la ruche, toujours près de l'entrée.
Près de l'entrée.
Et après, ce sont les rayons de stockage de cire. De miel, pardon.
De miel.
Donc, il se trouve au cœur de
ce couvain. C'est une espèce de petite boule, c'est quoi? Ça se présente comment?
Quoi donc?
Là où le naissin, là où on allait.
Non, ce sont des rayons comme les autres,
hein.
Des rayons. Un rayon de miel peut accueillir aussi bien du miel qu'une naissance une naissance, c'est pas vraiment une naissance, mais où la reine va pondre dans les alvéoles, et là, c'est là que la larve va s'agrandir.
Alors là où j'ai découvert un truc complètement dingue dans votre ouvrage, c'est qu'en fait les reines, vous savez, alors je sais même pas pourquoi on a appelé ça reine en fait, parce que on a transposé aux abeilles des préoccupations humaines, parce qu'en fait, de reine, il ne s'agit plus, ni plus ni moins que d'une ouvrière super spécialisée.
La reine est une pondeuse.
Point.
Elle ne décide de rien.
Elle ne décide de rien.
Non. Ce sont les abeilles qui décident de tout. Ce sont les abeilles qui vont construire, par exemple, des alvéoles un peu plus grandes pour obtenir des mâles. Et donc, c'est l'ensemble de la colonie, l'ensemble des ouvrières qui vont décider combien
mais
de mâles
vont pouvoir mettre. Mais comment elles décident? Alors, comment elles
communiquent? Si on savait tout. On n'a pas encore tous les éléments.
À titre indicatif, il y a combien de mâles pour, par rapport aux femelles, parce que les abeilles, c'est des femelles,
mâles,
en fait.
Parce qu'on parle d'ouvrières, vous avez raison, on parle d'ouvrières, on parle de reines. Et le bonhomme, où qu'il est.
Le roi. Il n'y a pas de roi dans une
ruche. Il n'y a pas de roi,
ça c'est sûr. Et il y a des mâles. Alors les mâles, eux, sont chargés d'une seule chose. Ils ne font que la reproduction.
C'est pas mal, Jean-Louis. Attendez, il va vous dire. J'ai lu le bouquin, c'est pas mal. Attendez, il va vous dire.
Alors, les mâles ne sont présents qu'une certaine période de l'année.
Tranquille.
Eux, pour être tranquille, c'est tranquille. Ah. Déjà, ils ont pas de dard, ils ne piquent pas.
Ah ouais. Ils sont gentils.
Oui, hyper gentils.
C'est pas ça qu'on appelle le bourdon, c'est
absolument pas. Et beaucoup d'apiculteurs appellent les mâles les faux bourdons. Si c'est un faux bourdon, c'est pas un bourdon.
Donc le mâle ressemble à une abeille.
À une certaine époque, dans l'ancien français, on appelait ça des abeillots. Il y avait l'abeille, l'abeillot et la reine.
Et vous, à l'œil nu, vous reconnaissez un mâle d'une femelle?
Oui, bien sûr, parce qu'il a il est un petit peu plus gros, il a des yeux énormes.
D'un regard lubrique à un DSK.
Pas vraiment ça, mais effectivement,
Il est chaud bouillant.
Ses yeux lui permettent de repérer des reines dans les bâles. Parce que les reines, lorsqu'elles naissent, jeunes reines vierges, et vont se faire féconder dans des bâles. Ce sont des bâles qui ont lieu à peu près à 30 mètres de hauteur. Généralement, c'est toujours au même endroit. Il y a un qui est repéré en Angleterre. Ça fait plusieurs siècles où le bâle a lieu au même endroit. Et toujours au même endroit.
Alors là, justement, j'ai une question. Ça veut dire que toutes les abeilles du coin,
toutes les reines du coin, tous les mâles du coin,
se donnent rendez-vous à un endroit précis.
Oui. Tout à fait.
Et est-ce qu'on sait pourquoi?
si on le savait.
Ouais, c'est dingue.
Ah, c'est marrant parce que si j'ai bien compris, on connaît le langage entre guillemets des abeilles,
oui.
Mais on sait pas le enfin le pourquoi.
Alors là, le bal, si le pourquoi, c'est simple, c'est-à-dire que la reine qui va décoller de sa ruche va aller très loin de sa ruche pour ne pas avoir les mâles de sa propre ruche. Le mâle est feignant, il va pas faire 150 km.
Bah je vous dis, c'est cool. Pour le mâle, c'est assez cool, Jean-Luc.
Alors, le mâle ne butine pas non plus, hein. Il va pas chercher.
C'est normal.
Il va pas chercher d'eau. Il se fait nourrir.
Yes.
Il se nourrit pas lui-même.
Yes. Mais il vit combien de temps? Il vit longtemps ou c'est comme la sauterelle?
Il naît au printemps et au 15 août, quand les réserves sont au maximum, les abeilles les chassent ou les tuent. Parce voilà. Que ce sont des bouches à nourrir qui sont trop, et donc là le mâle est supprimé.
Ouais, mais alors là vous nous présentez le côté noir. Je vois les filles qui se réjouissent, mais ne vous réjouissez pas. Il faut savoir que pendant tout le temps que se tient le bal, eh bien le mâle peut aller dans n'importe quelle ruche.
Ah mais c'est pas uniquement le bal, c'est à longueur d'année.
C'est open bar, mon pote. Open bar, t'arrives. Sauf que le problème arrive l'hiver et un jour
le 15 août.
Le 15 août, après, là,
15 août.
Là, vous avez une grosse abeille femelle qui vous dit,
même
ça va pas être possible, monsieur.
Non,
tu dégages.
Et le pire, c'est que, c'est soirée privée. Et le pire, c'est que quand on lit votre ouvrage, dans le meilleur des cas, on vous chasse, dans le pire, on vous tue.
Voilà.
C'est ça. Allez, on va s'écouter un petit disque. Une deuxième question, peut-être,
Une deuxième question.
Alors,
Pierre,
justement,
peut-être.
Pour gagner,
cet excellent ouvrage. Et je vous dis, chers auditeurs, on découvre plein de choses.
Surtout
ce bal,
si
etc.
Vous
c'est
à
très
Jarvin.
Vivant, très illustré.
Et même un balcon, on en parlera tout à l'heure, apparemment, même si c'est plus compliqué. Une deuxième question,
Alors, on peut juste poser une question. Combien de temps peut vivre une reine?
C'est dur, mais le temps. C'est écrit dans le livre.
Ouais, mais les gens l'ont pas lu. Mais bon, durée de vie du mâle, je note.
Donc, la reine, c'est
non,
ça.
Non, du mâle.
Du mâle.
Bon, alors du mâle.
Non.
Du mâle. Ah, vous aviez dit de la reine. Ouais,
autant
pour
la
moi.
Reine, parce que c'est très particulier. La reine est.
Alors, autant pour moi.
Alors, on reprend la question. Combien la durée moyenne d'une reine.
Mais on l'a pas évoqué juste avant.
Et on l'a pas évoqué.
Non,
on en a pas parlé.
Ou
donc,
à partir
durée de vie de la reine. Je note.
Allez, durée de vie de la reine.
C'est parti.
Voilà. 02 99 52 77 66.
Ah, je l'aurais dit deux fois.
Mais les gens sont distraits. Tout le monde n'est pas un auditif comme vous.
I don't wanna grow old, I try to keep it to myself. But the days are so cold and I don't even need your help. I wanted to try and I can't stop trying. Suddenly I am lost and my head is burning. In a box I will keep my shameful feelings. And you won't open it till you hear it exploding. Forget about the question, bother who came first. Cause I'd better be bumping the dust. I just hope the Lord forgive me all the pain I caused. But I don't wanna get the fuck out of my way and get this old. No memory on what I do, neither I'm bending my shoe. I don't wanna break the rules, I don't wanna. Well, you know, on a couple girls, they drug your mind.
en compagnie de Pierre Javaudin pour son ouvrage comment
une ruche dans mon jardin.
Dans mon jardin, l'heure tourne, mon bon Jean-Loup, c'est horrible. Moi, j'ai une question, moi.
Bah, attendez, comment... on peut peut-être répondre à la...
Ah oui, alors la question, quelqu'un a déjà gagné. Il nous reste encore un ouvrage à faire gagner, je tiens à le dire. On vous posera une question. C'était donc la durée de vie d'une reine et Pierre.
4 ans maximum.
4 ans quand même.
Oui, bien sûr. Parce que elle est là pour pondre et en fait elle arrête en fait elle est chassée par les abeilles au bout d'un moment parce qu'elle ne pond plus ou elle commence à réduire sa ponte. Et donc là après elle va mourir ou elle va construire une autre colonie, mais bon ça reste une autre histoire, j'en ai au moins pour une demi-heure.
Alors en parlant d'histoire, justement j'avais une question sur l'histoire. Est-ce que l'on sait depuis combien de temps on exploite l'abeille, mais de façon je dirais rationnelle, pas seulement comme mon papa me racontait lorsque aux Antilles, lui il est antillais et puis il me disait que hop ils allaient dans les bois, ils allaient chiper du miel dans la ruche.
L'exploitation, on peut la dater. Ça date du Moyen-Âge, et en fait...
Pas avant, par contre, on parle de l'hydromiel chez les Gaulois tout ça même sûr. Les Égyptiens.
Mais on parle vraiment d'exploitation, vous me parlez d'exploitation, où ça devient véritablement quelque chose en structuré produit. Mmh. Ça vient du Moyen-Âge, où tout simplement la cire de l'abeille, c'était même pas pour le miel, c'était pour la cire. Pourquoi ? Parce que cette cire est relativement propre, et quand on en fait des bougies, ça ne fait pas de fumée qui noircissait les chapelles. Alors que sinon, le suif ou tout ce qui était à base de graisse noircissait les décorations. Donc, les seigneurs avaient des personnes qui allaient récupérer la cire dans les bois. Ces personnes s'appelaient des bigres. D'ailleurs, c'est un nom de famille qui existe encore, hein, bigre. Le bigre. L'expression vient, bigre. Oui. Ça vient aussi après brigand, parce que dans les bois, il y avait beaucoup de bigres. Enfin bon, tout ça vient de
la tradition. Moi, je suis pas brigand, je suis bigre. Donc, ça commence pareil.
Ils étaient chargés de récupérer la cire dans les bois. Chaque seigneur avait son périmètre. Et c'était d'abord ça. Bien sûr, le miel de tout temps, puisque même l'ours récupérait du miel pour la consommation. Mais là, il n'y avait pas une exploitation. Là, on parle vraiment d'exploitation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant les gens c'était des ruchers sauvages en fait
mais au Moyen-Âge aussi il y avait beaucoup de ruchers sauvages, c'était dans les troncs d'arbres qui étaient sur le périmètre du seigneur où les bigres allaient chercher. Mais bien sûr les bigres ont vite compris aussi que des troncs d'arbres qui étaient couchés au sol, en les coupant et en les ramenant à la maison, on pouvait faire des ruches horizontale, et au lieu d'aller les chercher dans les bois, ben c'était tout simplement à côté de la maison. L'histoire de la ruche horizontale remonte à ce niveau.
Petite question pratique, vous m'avez convaincu, j'ai un petit jardin assez grand à Rennes, est-ce que j'ai besoin d'une autorisation pour avoir une ruche ?
Non, aucune autorisation.
Rien ?
Non. Non. Aucune autorisation. À partir du moment où vous respectez
l'histoire des 2 mètres,
l'histoire, de cette distance minimum avec une haie vive ou sèche de 2 mètres d'eau. Bien sûr, si vous habitez à côté d'une maternelle, vous habitez à côté d'une maison de retraite où il y a un lieu de passage recevant du public. Là, par contre, il faut quand même être en intelligence par rapport à tout ça. Mais non, il n'y a pas de. Alors que la municipalité peut décider autre chose. Mais là, c'est le code du travail qui rentre en jeu.
Alors, à Rennes, il n'y a pas de souci, en fait.
Non, tout à fait.
D'accord.
Alors, vous nous faites envie, hein, quand même. Vous nous faites envie, mais on ne doit quand même pas oublier avant tout qu'on a affaire à des êtres vivants. Donc, il s'agit de les soigner. Et j'ai entendu parler quand même que les abeilles étaient sujettes. Alors, vous n'êtes pas très optimiste, par exemple, sur le varroa, c'est ça, hein ?
Oui, alors le varroa, c'est un vrai problème. Le varroa est un parasite. Pour vous donner une image par rapport à l'abeille.
C'est horrible, vous l'avez vu le varroa est un... La photo du varroa, regardez, c'est une horreur.
Attendez, parce que là, à la radio, ça passe mal, l'image.
On le voit.
Le varroa, il faut imaginer un tourteau dans le dos d'un homme. Et ce tourteau vous suçant le sang. Voilà, à peu près. Voilà un peu le type de parasite que l'abeille a sur le dos. Donc ces varroa, bien sûr, ne sucent pas le sang, parce que l'abeille n'a pas de sang, mais de l'hémolymphe. Et ce parasite, en gros, c'est quasiment... impossible à s'en défaire, tout simplement, parce que c'est un peu comme les chats et les chats de gouttière qui ont des puces. Ils se refilent tous, et puis les mâles allant de ruche en ruche, enfin bref. Donc ce varroa est apparu dans les années 80 en France, tout simplement parce qu'à l'époque, certains apiculteurs souhaitant des abeilles encore plus productives sont allés chercher des abeilles en Asie, et en ramenant ces abeilles, en ramenant le parasite, en fait le varroa vient d'Asie, a été importé en France
par des apiculteurs.
Et le fameux,
et c'est horrible, hein. C'est
horrible. Oui, j'ai vu la,
voilà. Vous avez vu la photo?
Et le fameux frelon asiatique, il serait venu dans le, ça n'a rien à voir ou il serait
venu
dans
la... Là, autant le varroa est un parasite qui a été importé avec des abeilles, autant le frelon asiatique est arrivé par des transports.
Alors justement, quelles sont les causes justement? Alors, les causes de la disparition des abeilles, vous le dites dans votre ouvrage, on les connaît, il y a les pesticides, il y a la monoculture, il y a pas mal de choses. Mais vous soulignez, c'est ça l'originalité de votre ouvrage, vous soulignez aussi qu'il y a aussi peut-être, comment, de la part des apiculteurs, certains, on va dire certains, des apiculteurs professionnels aussi, une surexploitation de ces pauvres bêtes qui fait qu'au final, eh bien, on les affaiblit aussi.
C'est-à-dire que plus on demande à un animal de produire et plus...
Parce qu'on parle beaucoup de la ferme des 1000 vaches, mais quelque part,
mais
les abeilles...
C'est un peu la petite ferme des 30 000 abeilles, une seule ruche. Oui, tout à fait. Après, le miel, on a un déficit de miel en France. Il y a besoin d'apiculteurs professionnels. Il y a besoin de beaucoup de ruches pour produire. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, on importait 50% de notre miel. C'est-à-dire qu'on consomme deux fois plus de miel qu'on en produit en France. Ça, c'était il y a quelques années. Mais depuis un an ou deux, avec les problèmes météo et compagnie, on va produire un tiers de notre consommation. Donc, il est hors de question de dire que les professionnels, ceci, cela. Les professionnels font leur travail, ils produisent du miel, il y a des gens qui produisent des vaches, il y a des gens qui produisent des... Voilà, ça fait partie d'un monde particulier professionnel. Moi, où je trouve un peu dommage, c'est que pour un amateur qui a une ou deux ruches dans son jardin, il utilise à la fois les mêmes ruches et les mêmes méthodes. C'est plutôt ça. Moi, j'essaie de réhabiliter une ruche dite simple, où il n'y a pas besoin de matériel particulier, juste pour se faire plaisir et récolter un petit peu de miel. Bien sûr, les récoltes n'ont rien à voir. Une récolte moyenne en France, pour un apiculteur qui a 5, 6, 10 ruches, est à peu près une dizaine de kilos par an. Un professionnel sur ces mêmes ruches va monter jusqu'à 20 kilos par an. Mais sur le type de ruche que je propose, moi, ça sera 4, 5 kilos. Parce que on laisse le miel aux abeilles. L'inconvénient d'une production de miel, c'est que on gère ces abeilles pour qu'elles produisent un maximum de miel. Et quand elles ont bien rentré toutes leurs réserves fin d'été, hop, c'est là que les apiculteurs interviennent en récupérant ce miel, en laissant quand même un petit peu pour les abeilles heureusement, mais en donnant une nourriture sucrée qui est en fait de la saccharose. Pour qu'elle passe l'hiver.
Alors tout c'est ça, quand même un comble. Elles se sont fait chier à butiner les fleurs tout l'été et tout le printemps. Et au final, eh ben non, t'auras de la saccharose. J'espère que t'aimes ça. De toute façon, il n'y a pas autre chose. Et c'est un peu dur quand même.
Leur tourne, désolé, question pratique. C'est, vous m'avez convaincu, j'ai un petit bout de jardin. Comment je fais pour avoir un essaim?
Alors là, ça vient pas tout seul dans une ruche.
Ouais.
Il y a plusieurs possibilités. D'une part, on peut en trouver auprès d'apiculteurs qui les récupèrent. Mais bien sûr, un apiculteur qui récupère un essaim va le mettre dans une de ses ruches. Et donc, c'est incompatible avec les ruches que je propose. Donc, en fait, il faut trouver un apiculteur qui puisse vous proposer l'essaim frais cueilli de façon à le mettre tout de suite dans la ruche.
Qui n'ait pas été conditionné par la ruche classique.
Par des cadres et la cire gaufrée, tout à fait. Voilà. Sinon, le cueillir soi-même, hein, parce qu'un jour, il faut bien...
J'ai vu une fois un essaim d'abeilles, c'est impressionnant.
Impressionnant, mais c'est pas agressif, mais c'est juste impressionnant. Effectivement, c'est impressionnant. Sinon, il y a des sociétés qui permettent d'envoyer tout simplement, vous recevez un colis à la maison où il y a, vous avez vos 10, 20 ou 30 000 abeilles avec la reine dans une boîte, un genre boîte à chaussures, et voilà, vous ouvrez la boîte et vous mettez ça dans votre
ruche. Deuxième question.
La boîte et vous avez intérêt à espérer qu'elle rentre dans la boîte que vous avez dans votre jardin.
Alors pour ça, il faut juste mettre la reine
dedans.
Elle est dans une petite cage à part. Vous sortez la reine de sa petite cage, vous la mettez dans la ruche, et après vous versez toutes les abeilles dans la ruche. Elles vont pas sortir puisque la reine est là.
Deuxième question. Ça fait combien de temps un essaim en fait? Si j'achète, j'ai combien de petites boîtes à chaussures, etc. Ça fonctionne, ça se renouvelle, ça se régénère.
Ah, ça pour se renouveler effectivement, parce qu'une abeille passe à peu près 21 jours dans la ruche et 21 jours à l'extérieur de la ruche. C'est tout. En fait, une abeille vit que quelques semaines.
D'accord.
Autant la reine, tout à l'heure, on en parlait, elle vit 4 ans, mais une abeille vit quelques semaines. Et donc, elle va mourir à l'extérieur puisqu'elle va être épuisée, puisqu'elle a les ailes qui vont se fatiguer, etc. Un oiseau qui va passer. Bref, elle meurt à l'extérieur, elle meurt au travail.
Et ma troisième question, et après je passerai la parole à Roger. Ça y est, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai mon essaim, etc. comment je fais pour récolter mon miel?
Alors là, vous achetez son livre?
Là,
je sais pas. Oui, peut-être vous donnez.
Alors, contrairement à la ruche conventionnelle où il faut du matériel, un extracteur, un désoperculateur, un maturateur, enfin,
un habit de cosmonaute tranquille quoi.
Là, il suffit simplement d'avoir un couteau, un saladier et une passoire.
Et un peu de courage
De courage, pourquoi faire?
Mais parce que je pense que beaucoup de gens s'imaginent l'abeille comme un animal dangereux
là,
et prêt à vous...
Là, sur ce type de ruche, vous enlevez rayon par rayon.
Donc hop, elle décale.
Vous imaginez bien une ruche conventionnelle avec des étages, un peu comme un immeuble. L'apiculteur arrive et sépare l'immeuble en deux pour aller chercher du miel. On peut imaginer que les habitants et les habitantes ne soient pas contentes. Ici, ce type de ruche, comme c'est latte par latte, c'est un peu comme si on ouvrait appartement par appartement. Donc, il n'y a pas d'effet de panique, il n'y a pas d'effet d'agression. Parce que c'est relativement doux.
Alors justement, l'heure tourne, il ne reste plus que 7 minutes pour poser une dernière question, parce qu'il nous reste encore un dernier ouvrage à faire gagner. Est-ce que vous avez une question, par exemple, quelque chose dont on a parlé, que les gens viennent pas couiner?
C'est-à-dire, c'est quoi votre question?
C'est à vous, Pierre. Est-ce que vous nous posez une dernière question de ce dont on a parlé, par exemple, que les gens
voient ouais,
si ils ont écouté?
Moi j'ai une petite... Oui. Non mais ça n'a rien à voir avec... c'est juste pour ma gueule. Ça coûte combien un essaim en fait d'abeilles?
Voilà. Alors un essaim d'abeilles, quand livré à la maison par une entreprise spécialisée, là ça commence et tous les ans ça augmente. On arrive à facilement 120-130 euros.
Oh, ce qui reste. Et le matériel, la fameuse ruche que vous proposez en fait...
La ruche que je propose, on peut même en fabriquer avec des palettes. Donc là, ça ne coûte rien. Il faut 5 palettes, et avec 5 palettes, vous pouvez faire une ruche.
Voilà, donc il faut coûter à peu près 120 euros un essaim.
Oui, après, il y a un peu d'équipement.
Il faut vraiment qu'on pose une dernière question, Jean-Loup, sinon dernier ouvrage.
Combien coûte un essaim d'abeille?
Voilà, combien coûte un essaim d'abeille? C'est parti, 02 99 52 117 66.
Parce qu'après, il va...
Et c'est parti, un petit dix, pas trop long, j'espère.
Non.
Bah, il fait tout juste 3 minutes, donc ça devrait passer.
Voilà, le temps qu'on se dise au revoir
juste après.
Et attendez que les gens téléphonent.
C'est parti. toujours en compagnie de Pierre.
Alors qu'on a eu un gagnant et qu'il est plus que temps, malheureusement, de nous quitter. On remercie les sportives du roller derby de Rennes d'avoir eu la patience de rester avec nous ce soir. On remercie Pierre, en tout cas, également, de nous avoir présenté un petit peu sous un autre angle, on va dire, l'apiculture. Et moi, je suis bien branché, moi, pour m'en fabriquer une. Et puis voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la fabriquer soi-même, votre ruche.
Bien sûr, bien sûr. Elle peut être, ce que je disais tout à l'heure, soit fabriquée avec des planches de récupération, avec des palettes, ou tout simplement, je donne une liste de courses dans le livre en question. Vous pointez avec votre chariot devant une grande surface de bricolage, et vous ressortez avec, et vous avez tout le matériel nécessaire.
Voilà, et vous avez aussi un site internet qui est hyper, mais vraiment détaillé. Détaillé et complet.
Oui, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai mis du temps à acquérir cette connaissance, et j'ai voulu absolument partager. Donc le site internet.
On retrouvera tous les liens. Voilà.
Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de dire que les éditions Larousse vous ont contacté grâce à votre blog.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Vous ont proposé de réaliser cet ouvrage qui est fort bien
voilà.
fait.
Voilà. Une ruche dans mon jardin, on peut le trouver
partout.
Et il paraît que ça marche pas mal.
Ça marche pas mal.
Et attendez, vous n'étiez pas encore passé chez les Grignoux.
Alors là,
merci. C'est comme pour le roller derby, vous allez faire des étincelles, les filles, le 25-26 février, c'est sûr.
Allez, merci. On vous dit salut, à bientôt.
Au revoir.